Alors prions ensemble encore une fois avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, rends-nous attentifs à ton Saint-Esprit. Rends-nous attentifs à ta parole. Et qu'on puisse retourner chez nous avec une pensée encouragée, renouvelée par toi. Au nom de Jésus. Amen. OK, alors nous poursuivons notre série sur les racines spirituelles de notre mouvement d'Église, l'Alliance chrétienne et missionnaire. Mais d'abord, on va faire un peu de révision. On a commencé l'été en apprenant la prière visionnaire de notre mouvement. Puis, redisons-la ensemble à l'unisson. Quand je dis 1, 2, 3, go, d'accord? 1, 2, 3, go. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Amen. Et ensuite, vous vous souvenez que nous avons commencé à considérer les quatre symboles de ce qu'on appelle l'Évangile dans sa plénitude, l'Évangile à quatre volets. Et voyons si mon... Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Je croyais que j'avais un laser, mais à place, je pèse encore, OK. Ah, voilà mon laser, parfait. Alors, premier symbole, la croix. Donc, Jésus sauveur, celui qui nous a donné la rédemption du mal et du péché. Ensuite, si on regarde à droite, ici, un lavoir qui est plein d'eau, et c'est Jésus notre sanctificateur, celui qui purifie nos vies pour nous rendre aptes à le servir par son œuvre à l'intérieur de nous. Ensuite, à gauche, c'est le pichet d'huile, et ça, c'est Jésus notre guérisseur. Très, très bien. Jésus qui nous guérit nos blessures intérieures et même physiques. Et pour terminer, nous avons ce dernier symbole, Jésus, notre roi, et notre roi qui revient. Et ça, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Jésus, notre roi qui revient. Alors, on peut se demander, pourquoi est-ce que c'est important de nous souvenir que Jésus est notre roi qui revient? Et voici la réponse qu'on va donner à cette question ce matin. C'est parce que cette réalité est une des convictions qui nous motive vers cette relation plus profonde avec Dieu, vers cette joie, vers cette demande aussi de transformation pour pouvoir servir. Cette motivation, c'est la joie d'un évangile du futur, un évangile du futur. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes un peuple qui regarde vers l'avenir. Il ne faut jamais l'oublier. Et on a tendance à l'oublier. Parce que c'est vrai que Jésus a agi dans le passé. Il est mort sur la croix il y a 2000 ans et nous le célébrons et on a raison. Puis c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on peut expérimenter sa puissance et nous le célébrons, nous le prêchons, c'est bien. Mais, pensez-y une minute, ce que nous avons reçu partiellement dans le passé et le présent, Jésus va revenir et nous le donner dans sa totalité. Hein? On pense au salut, on pense à la guérison, on pense à la justice sur la terre. Tout ça, ce n'est que partiellement qu'on y a goûté, même si c'est vraiment arrivé. Mais nous attendons l'accomplissement total. Et cela a déjà été annoncé par Dieu. Jésus revient bientôt. Il revient comme roi pour toujours. il va établir la guérison complète sur la terre, jusque dans le cœur et dans le corps de chacun d'entre nous. Amen? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est quand même un bel évangile du futur. Et vous savez, la Bible parle beaucoup et à bien des endroits différents du retour de Jésus et de l'établissement du règne de Dieu. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul verset, le verset suivant. Jésus s'entretient avec ses disciples peu de temps avant sa mort. Et eux lui posent des questions et lui leur explique ce qui va arriver après sa passion. Et surtout, il leur dit quel état d'esprit ils vont devoir encourager parmi les disciples futurs durant cette période future où ils vont diriger le peuple de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Donc, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » On va le relire pour que ça rentre bien. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. Amen. Alors, la fin dont il est question dans ce passage est décrite avec plusieurs détails dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu et ailleurs dans la Bible aussi. Les détails, ils sont assez nombreux et ils sont fascinants. Ce sont des détails parfois grandioses. Ce sont des détails surprenants et ils sont parfois épeurants. Puis, ils sont souvent difficiles à interpréter parce qu'ils sont en langage imagé. Je peux mentionner comme détail la question de l'enlèvement de l'Église. Le « rapture » en anglais, l'enlèvement en français, Paul en parle d'une manière explicite dans 1 Thessaloniciens. Sa lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Et on pourrait parler aussi d'un autre détail, assez surprenant aussi, le règne de 1000 ans, qui est décrit dans Apocalypse, chapitre 20. Et ce règne est décrit comme un genre de règne terrestre préliminaire de Jésus avant son règne permanent et éternel. Alors, tout cela éveille des questions, de la curiosité, puis ça a été l'objet de beaucoup de discussions et même de controverses entre les chrétiens depuis 2000 ans. Et je vous invite, en tout cas, à lire chez vous, à la maison, Apocalypse chapitre 20 et 1 Thessaloniciens 4 sur les détails que je viens de mentionner. Mais vous savez, Jésus a dit que les détails du déroulement de la fin du monde, là, c'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est que cette assurance de revoir Jésus, c'est ça notre évangile du futur, cette assurance de revoir Jésus bientôt, notre roi, celui que nous aimons, c'est ça qui doit nous remplir de joie aujourd'hui, d'encouragement aujourd'hui, de vie sainte aujourd'hui. Jésus veut nous mettre à l'œuvre, non pas pour amener le royaume de Dieu sur la terre tout de suite. C'est vrai que les œuvres qu'on fait en ce moment amène un reflet du royaume de Dieu sur la terre. Mais celui qui va l'établir, c'est Jésus lui-même quand il revient. Le royaume de Dieu, c'est vraiment le royaume de Dieu. Jésus a dit que le mal va continuer à se répandre dans le monde, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens de bien qui travaillent. Et j'inclus ici Mme Benoît et son équipe qui, à leur manière, travaillent pour la justice pour les opprimés. Je pense aussi à la famille Bomolo qui, chaque semaine, ouvre les portes de Nouvelle Vision des Jeunes pour nourrir une centaine de familles du quartier. Je pense à plusieurs d'entre vous et plusieurs des nôtres qui sont au loin et qui travaillent pour le bien, mais celui qui va amener la justice éternelle et permanente, c'est Jésus lorsqu'il va revenir, et c'est là notre espérance fondamentale. Amen! Vous êtes avec moi? Notre job, c'est non seulement de faire le bien, mais de faire le bien en annonçant à nos amis qu'ils peuvent faire partie de ce royaume s'ils se repentent, c'est-à-dire s'ils renoncent à leur orgueil devant Dieu pour reconnaître qu'ils ont besoin de lui et qu'ils doivent se soumettre à sa seigneurie. C'est pour leur dire ceci, et ça, ça s'applique à chaque personne dans cette salle, quel que soit votre âge, quelle que soit votre éducation, quelle que soit votre origine, place ta confiance en Jésus. Donne-lui toute ta vie. Il va t'aider à te préparer pour le royaume de son Père, dont il a tant vanté les beautés, et dont lui et ses sœurs et frères seront les princes. Qui vont être les sœurs et frères de Jésus et les princes et princesses? Nous. Si nous confions en lui, nous serons de cette royauté-là. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Oui? En tout cas, moi, je dis comme Richard, alléluia, et quelle belle promesse. Voilà l'essentiel de cette bonne nouvelle. C'est donc, notre évangile est un évangile du futur. Croyons et partageons cet évangile du futur. Alors maintenant, j'ai deux histoires à vous raconter pour illustrer l'importance du futur dans notre motivation présente. OK, parce qu'il y en a, il y a des critiques de la foi qui vont dire, la religion, là, c'est un faux espoir là-haut dans le ciel qui empêche ceux qui y croient de bien profiter du présent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein? La religion, c'est un faux espoir dans le ciel qui empêche les croyants de bien profiter du présent. Mais nous, nous répondons, l'espoir futur chrétienne, ça, c'est notre carburant pour bien vivre le présent. Amen? OK. C'est notre impulsion pour mordre dans le présent à pleines dents. Hein? D'accord? Bon, OK. Hein? Oui. On veut vraiment être des gens du présent. Pas juste des gens passifs. Vous allez voir par mes histoires. Amen. Oui. Ma première histoire, eh bien, ça se passe dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne nazie, tout près de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats alliés emprisonnés dans cette prison, ils avaient secrètement confectionné une radio qui leur permettait d'entendre en cachette les nouvelles de la BBC. La BBC, c'était un pays de leur bord à eux autres, là, les Britanniques. De leur côté, les gardes allemands du camp étaient dans la position de pouvoir absolu sur les prisonniers et ils les maltraitaient souvent. À leurs yeux, ils étaient en contrôle. C'est eux qui avaient les fusils. À leurs yeux, ils étaient libres. Et c'est eux qui étaient connectés avec la réalité du monde extérieur, contrairement aux prisonniers. Mais c'était une fausse apparence. Parce que, dans la réalité, le gouvernement nazi cachait aux gardes le fait qu'ils étaient en train de perdre la guerre, sérieusement. Et un soir, les prisonniers ont appris par leur radio cachée que les Russes et les autres alliés avaient maintenant pris Berlin, la capitale. La guerre était terminée. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans le contexte du chaos dans lequel était plongée la nation allemande, les gardes du camp n'avaient pas reçu cette nouvelle de leur commandant à Berlin. Alors, imaginez ce scénario cocasse se déroulant dans les prochains jours dans le camp. Alors, il y a ces gardes avec leurs fusils, toujours en contrôle de la situation, toujours en train de maltraiter les prisonniers, mais de plus en plus inquiets et confus. Et devant eux, une foule de prisonniers alliés, toujours soumis, toujours maltraités, mais souriants, sautillant de joie, retenant leur désir de célébration pour ne pas se faire taper dessus, mais se donnant les uns aux autres des tapes discrètes dans le dos en se disant « Courage, camarades! Ta libération est à veille d'arriver. D'une minute à l'autre, on va voir les tanks alliés arriver à l'horizon et les gardes vont prendre la fuite. » C'est vraiment arrivé. Voyez-vous où je veux en venir, mes frères et sœurs? Dans le grand combat cosmique d'aujourd'hui, vous êtes ces prisonniers alliés. Toi, tu es dans cette prison, dans un certain sens. Hein, nous avons été sauvés par Jésus. Nous faisons partie de ce nouveau règne, mais nous sommes dans un monde encore sous l'emprise du prince de ce monde, qui a déjà été vaincu, mais qui se débat encore comme un diable dans de l'eau bénite, pour ainsi dire. Peut-être que tu te sens défait aujourd'hui par des échecs personnels ou organisationnels. Peut-être que tu es déprimé des fois parce que ton œuvre à toi te paraît insignifiante devant les problèmes grandissants de notre monde. Peut-être que tu as commencé à douter parce que l'Église de Dieu te paraît marginalisée par les puissants de ce monde. Puis c'est justement là où Jésus veut venir te rencontrer ce matin. C'est justement là où l'Évangile du futur est puissant pour te relever ce matin. Jésus te dit ce matin, « Prends courage ». C'est Jésus, ton frère, qui te tape dans le dos et dit, « La victoire, je l'ai déjà gagnée. J'ai vaincu Satan à la croix et par la résurrection. Persévère dans ton travail. Je vais venir bientôt pour affirmer que ce que tu as fait n'était pas en vain et je vais venir établir mon règne éternel. » Amen!
Amen.
Bon! Oui! Et puis après ça, j'ai encore une autre histoire. Alors, cette deuxième histoire, elle m'a été racontée cette semaine par mon épouse Cheryl. Vous voyez qu'elle est une source d'inspiration pour moi, souvent. Elle m'a relaté ce souvenir d'enfance personnelle. Elle m'a dit ceci. Quand j'étais petite, je raffolais des visites chez nous de mes grands-parents. Ces visites n'étaient pas fréquentes, car mes grands-parents devaient venir en voiture de très loin pour passer du temps chez nous. Je les aimais beaucoup et j'aimais tellement être avec eux. Alors, bien avant leur arrivée chez nous, comme j'avais tellement, tellement hâte, je m'asseyais devant la fenêtre du salon et j'attendais. Je passais de longs moments immobiles devant la fenêtre en regardant l'entrée, en regardant la rue, en regardant à l'horizon et je languissais. Et puis ma mère me voyait et ma mère me disait, « Cheryl, tu devrais faire comme moi et travailler à préparer leur visite. Moi aussi, j'ai très hâte de voir grand-maman puis grand-papa. » Mais mon attente est moins triste quand je suis occupé. Viens m'aider dans la cuisine. Alors, paraît-il que Cheryl n'écoutait pas toujours sa maman et persistait à rester désœuvrée devant la fenêtre. Et, mais vous savez que sa mère avait raison. Premièrement, quand ta maman te demande de faire quelque chose, les jeunes, là, hein, est-ce que la Bible ne dit pas « obéissez à vos parents » Alors, erreur numéro un, elle n'obéissait pas. Heureusement qu'elle n'est pas ici, parce que... Erreur numéro deux, c'est que sa mère, Rosemary, qui est maintenant auprès du Seigneur, mais était une grande femme de Dieu, et ses paroles nous rappellent en fait celles de Christ lui-même, qui nous a dit, comme on a vu, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ça nous rappelle, il y a comme un appel au travail sous-entendu dans cette affirmation ici. Il y a un appel au travail sous-entendu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le perçoit et qui aimerait se risquer, qui aimerait... C'est quoi l'appel au travail qui est pour nous? Qui est sous-entendu ici. Liette, je t'entends.
C'est ça.
Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée. C'est un peu général comme formulation, mais sous-entendu, et je suis d'accord avec Liette là-dessus, vous allez proclamer la bonne nouvelle du règne à toutes les nations. Alors viendra la fin. Hein? De la même manière que Cheryl était appelée à travailler. Et alors viendra les grands-parents, n'est-ce pas? Viendront les grands-parents. Et c'est la même chose pour nous. Jésus nous invite au travail. Car à travers notre travail fidèle dans sa mission et dans le monde, nous allons nous sentir plus proches de lui. Et c'est vraiment vrai. Vous vous souvenez quand Mme Jesperson était ici, il y a quelques semaines, elle nous a parlé de la mission. Elle a dit, tout le monde demande le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on l'expérimente vraiment quand? Bien, quand on obéit, puis on se met à l'œuvre. Parce que le champ d'œuvre du Saint-Esprit, c'est là où on l'expérimente d'une manière puissante. Et elle a raison, mais le Saint-Esprit aussi est à l'intérieur de nous et il se met à bouillonner, à nous parler, quand on obéit et qu'on se met en action. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit à ses disciples un peu plus tard dans l'histoire. C'est maintenant après sa résurrection. Les disciples sont en train de lui poser encore plein de questions. Ils sont inquiets parce qu'il leur dit, je vais remonter vers le Père. Et là, ils disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Quand est-ce que tu vas redonner le royaume au peuple d'Israël? Et ainsi de suite. Et en plus, on se souvient que quand il est remonté, même après cette deuxième explication, ils étaient là comme immobiles à regarder le ciel, vous souvenez-vous? Puis là, il y a un ange, un ou deux, en tout cas, peu importe, qui leur ont apparu et disent « Arrêtez de regarder le ciel !» Et ce qu'il vous a demandé de faire, allez le faire. Et voici ce qu'il demande à faire ici. Attendez, où est-ce que je suis ici? Oui, voilà. Par rapport aux détails, Jésus leur répond dans acte 1, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, est-ce que ce n'est pas ce que Jean-Pierre, qui n'est pas ici, mais c'est ce qu'il a prié ardemment tantôt, « Saint-Esprit, viens sur nous. » Chaque personne qui reçoit Christ dans sa vie reçoit le Saint-Esprit. Nous avons cet Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Oh, mes frères et sœurs, soyons remplis de cette joie que donne le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui nous envoie vers les autres. Préparons-nous en tant qu'Église à devenir vraiment une Église mobilisée pour les œuvres de Dieu. Attendons avec joie son retour. Mettons-nous au travail. Concentrons-nous pendant notre court passage sur cette terre pour faire les actions qu'il nous demande. Puis, justement, en parlant de mission, ne manquez pas les trois prochains dimanches. Déjà, venez le 14 août, le 21 août, le 28 août. David, Gunner et Cheryl vont chacun nous parler de ce que signifie la mission pour Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui et comment même toi, tu peux y participer. Toi, peut-être que tu te considères comme une chrétienne bien ordinaire, mais il y a de la job pour chacun d'entre nous. Hommes, femmes, garçons, filles, très jeunes ou moins jeunes. Je pense à notre sœur Liette qui est peut-être, on peut dire, tu es dans la deuxième moitié de ta vie. J'ose pas spéculer, mais Liette passe beaucoup de son temps dans son foyer à apporter la bonne nouvelle de Jésus à ses co-résidents et à les réunir pour des études bibliques qui sont vraiment le fun. Et je le sais parce que j'y vais souvent. Et donc, il y en a pour tous les âges dans la mission de Dieu. Mais on va en parler les prochains dimanches. Soyez là. Surtout, avant même de commencer à faire du travail, fixons nos affections du cœur sur celui que nous aimons. Ce Jésus qui est, oui, il est là dans ton cœur par le Saint-Esprit, mais surtout, il va revenir et tu vas le voir de tes propres yeux. Ça va être merveilleux. Concentrons-nous sur son amour pour nous, vraiment. C'est un roi, c'est un sauveur qui t'aime, qui a tout donné pour toi. Oui, avant toute chose, chérissons-le, sanctifions-le dans notre être intérieur. Rappelons-nous, oui, on a tellement hâte de le revoir avec nos yeux. Je termine en disant, pour aider à fixer nos affections sur celui que nous aimons, préparons nos cœurs pour célébrer ensemble le Saint Repas auquel Jésus lui-même nous invite en tant qu'Église et par lequel vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Préparons nos cœurs maintenant pour célébrer ce repas qui est un regard vers le passé et aussi un regard vers le futur.